Bonsoir, Yatsatou.
Bonsoir.
Alors, ce soir, au programme, nous avons Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, que vous avez illustré et qui est édité en co-édition avec l'édition Gallimard et les Livres du Futur. Et La vie secrète des jeunes, chose vue et entendue entre 2004 et 2009, publié également aux éditions des Livres du Futur. Et pour ce livre-là, il y a une petite mention spéciale. Attention, non, ce n'est pas pour les petits enfants. Commençons par cette petite mention spéciale pour s'en débarrasser.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, La vie secrète des jeunes, c'est une bande dessinée que j'ai dessinée quand j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, bien sûr, mais
l'année dernière.
Voilà, c'était plutôt en 2004-2005. Et donc, c'était une bande dessinée qui était prépubliée dans Charlie Hebdo. Et donc, en effet, il y avait des scènes. C'était des scènes que j'observais dans la rue, dans les transports en commun, qui racontaient voilà, des interactions entre des jeunes, des bagarres, des parents qui parlent mal à leurs enfants, etc. Et donc, j'ai récupéré les droits de cette bande dessinée qui était épuisée depuis des années. Et j'ai décidé de la rééditer, mais il est vrai que entre temps j'ai eu un succès tonitruant avec l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther, et j'ai eu un tout nouveau public parce qu'à l'époque où cette bande dessinée sortait, voilà, mon public était un peu constitué de fanatiques de la BD, de geeks, un peu qui connaissaient bien les, enfin qui avaient pas froid aux yeux, voilà. Enfin, je dis pas qu'aujourd'hui les gens ont plus froid aux yeux, mais si vous voulez, maintenant j'ai des petites mamies hyper sympas qui adore mes BD et qui je ne voulais pas que pour Noël, oui, elle se dise ah, tiens, pour la petite Joséphine en CM1, je vais lui offrir La vie secrète des jeunes, et en pensant que c'est pour les enfants. Et si elle lui offre ça, je pense que ça risque d'infléchir le cours de sa vie. Ça n'est pas à lire à 8 ans. Voilà, je pense,
oui, que moi, ça. Parce que donc on rappelle aussi que, quand même, d'abord Charlie Hebdo à cette époque-là est très lu. C'est un journal qu'on se passe de main en main très facilement chez les jeunes. Et puis on rappelle quand même que vous avez été chopé par deux fois par le comité de censure, ce qui a beaucoup plu à Charlie Hebdo quand même.
Alors justement, pour être vraiment plus précis, l'époque où moi j'ai prépublié ces histoires dans Charlie n'allait pas bien du tout. C'est-à-dire, il y avait absolument tous les bruits que j'entendais, ils étaient en grande difficulté financière. Il n'y avait pas de lecteurs, de lectrices. Enfin, plus personne n'achetait le journal. Et moi, c'est vrai que j'avais publié à l'époque deux livres qui s'appellent Manuel du Puceau et La Circoncision, qui sont deux livres aussi épuisés que je les rééditerai peut-être jamais. Qui les a lus dans la public? Levez la main s'il y en a. Ah ben voilà, vous voyez, ouais. Si je les réédite, c'est ce que je disais, je vais mettre un bandeau, n'achetez pas ces livres. Enfin, voilà, ils étaient vraiment très trash.
Un bandeau pour dire pas pour Joséphine.
Voilà, pas pour la petite Joséphine. Et ces livres, en effet, avaient eu des problèmes avec la commission de censure de la loi 1949, qui est en fait un des derniers organes un peu de censure, qui date du général de Gaulle, et qui de temps en temps s'en prend à des livres, voilà, qui, pour les empêcher d'atteindre des jeunes, enfin bref. Et Charlie Hebdo avait eu beaucoup de problèmes avec cette commission, et donc ça avait été le seul journal qui s'était intéressé à mes problèmes à l'époque avec ces deux livres. Et ils m'avaient invité à venir dans leurs locaux. Ils avaient fait un article sur la chose, etc. Cavana avait envie il rêvait de voir cette commission dissoute parce qu'il avait eu beaucoup de problèmes avec elle aussi. Et donc, à cette époque-là, Cabu et Philippe Val, ils recherchaient toujours beaucoup de nouveaux dessinateurs, de nouvelles dessinatrices. Et ils m'avaient proposé de rejoindre le journal. Ils m'avaient dit « Ah, mais fais des dessins pour nous, on t'engage et tout. » Et en fait, moi, personnellement, j'ai toujours été ultra nul en caricature politique. Je ne sais pas dessiner Donald Trump ou des trucs comme ça. Enfin, j'essaye de temps en temps. Au début de La vie secrète des jeunes, il y a Charles Pasqua.
Oui.
Parce que un jour, je me suis retrouvé dans les toilettes avec lui. Enfin bref, c'est une... Et donc, je me suis dit, quelle aubaine, je vais la raconter et je vais dessiner Charles Pasqua. Mais il était très gentil, d'ailleurs, en fait. Et donc, j'ai expliqué à Cabu et à Val que je ne pouvais pas faire de caricature, j'étais nul en ça, mais que par contre, faire une bande dessinée, ça m'intéressait. Donc, ils m'ont dit, bah, fais-nous une petite BD. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans La vie secrète des jeunes.
Et vous dessinez vous-même aussi, vous racontez dans ce livre que vous avez mis un certain temps à trouver la façon dont vous alliez vous représenter.
Ben oui, c'est toujours compliqué. Bon, moi, quand j'étais jeune, disons que j'avais envie quand même que mes livres se fassent remarquer. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas, ce que j'ai fait, je sais pas. Mais moi, je m'étais dit, je vais faire des choses un peu choquantes. ou un peu grinçantes, des choses que les autres n'oseraient pas faire. Et en fait, j'essayais de m'inscrire dans un courant, entre guillemets, un peu de la bande dessinée autobiographique un peu indépendante, qui mettait en scène des types un peu mal dans leur peau, qui avaient une interaction avec le réel un peu grinçante. Par exemple, ma grande idole, qui est toujours aussi ma grande idole, mais qui faisait ça depuis les années 70, c'est Robert Crumb, par exemple. Et donc, me dessiner, j'essaie de me dessiner de temps en temps dans les histoires, mais j'étais mal à l'aise avec la façon de le faire, je savais pas comment me représenter, etc. Donc je m'étais créé une sorte de personnage, mais qui n'était pas moi et qui vivait des aventures comme ça. Mais je l'ai rapidement abandonné dans La vie secrète des jeunes pour me concentrer sur juste l'observation, le dessin d'observation.
Et vous prenez beaucoup le métro hein, dans La vie secrète des jeunes, parce que ce sont beaucoup des scènes qui se déroulent dans les transports en commun. Et bon, il y a vraiment de tout. Donc c'est à la fois hilarant, parfois désespérant, c'est parfois très violent, c'est parfois très émouvant. Mais en fait, en lisant à nouveau ces planches, je me suis vraiment demandé ce que ça avait façonné dans votre écriture pour la suite, d'être en interaction comme ça avec le réel prégnant tout le temps, même en vacances, même quand vous êtes en Corse, vous ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que ça induit chez vous après comme réflexion d'auteur ?
C'est une très bonne question et je crois que c'était comme une répétition, en effet, de ce que j'allais raconter par la suite, peut-être, parce que je me suis rendu compte que j'adorais retranscrire le langage parlé, j'adorais retranscrire les accents, disons que personnellement j'adore l'imitation. Je sais pas, j'adore les imitateurs. Je dois être un petit peu autiste. Je sais pas, j'adore les voix, les façons de parler, etc. Et donc, j'avais été fortement marqué. Je me rappelle quand j'étais ado par la lecture d'une bande dessinée de Daniel Goussens. Je me rappelle plus du nom de laquelle de ces bandes dessinées. Ou alors, c'est un auteur de bande dessinée qui est un dessinateur génial, comique, qui a fait de nombreux albums chez Fluide Glacial et qui était un dessinateur virtuose. Et qui avait retranscrit à la perfection dans une de ses histoires l'accent canadien par écrit. Wow. Et en fait, déjà l'accent canadien, de le faire à voix haute, c'est ultra dur. Ouais. Mais alors le faire à l'écrit, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette histoire et s'il pourrait me dire dans quelle histoire c'est. Ça vaut vraiment le coup que vous la lisiez. Wow. Je le posterai sur mes réseaux si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous. Et c'est gratuit. Et donc je m'étais dit, mais c'est vrai, c'est la façon dont les gens parlent, la façon dont les enfants parlent, la façon dont les jeunes, on comprend, comment dire, on peut imaginer très facilement la vie quotidienne de quelqu'un quand on l'entend parler. Par exemple, on sait, par exemple, un enfant, si les adultes lui ont beaucoup parlé, ou si en fait il a eu que des interactions avec très peu de mots, etc. On lui a jamais lu d'histoire, ça s'entend dans le vocabulaire, voilà. Et donc je me suis intéressé à ça et parfois de manière un peu maladroite, j'ai cherché. C'était comme un carnet de croquis en fait. Je m'entraînais pour un peu pour la suite.
Mais en fait, là, c'est vrai que dans votre écriture, on le voit bien, c'est très intéressant, l'utilisation que vous faites des fautes d'orthographe, des mots valises, des typographies, quand vous écrivez en italique, ou quand, au contraire, il y a une écriture liée pour un personnage plus gnangnan, ou qui est un peu stupide. C'est très intéressant comment vous jouez avec les lettres. Le dessin, c'est une chose, le récit, le fait d'être auteur, c'en est une autre, mais la typographie, c'est quand même un élément très important dans votre écriture.
Oui, c'est vrai. Puis c'est pas tellement intellectualisé non plus, parce que par exemple, si vous voulez retranscrire un rythme ou une exclamation, vous allez utiliser la taille des lettres les unes par rapport aux autres, etc. Ça peut aider. Enfin voilà, c'est vrai que je sais pas si je saute du coq à l'âne, mais je sais pas si vous avez vu, il y a une influenceuse récemment qui a fait une vidéo qui a marqué, qui a fait un petit peu parler d'elle. Je crois qu'elle s'appelle Maeva Guéram ou je sais pas. Elle a fait une vidéo où elle est dans un marché de Noël et elle se plaint qu'il y a du porc partout. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, elle se filme comme ça. Et elle parle à la caméra et elle est en mitouflée comme ça. Elle fait, mais je te jure, il y a du ralouf partout. Et en fait, je me disais, parce que elle bute sur les R tout le temps. Elle dit, comment on va faire? On peut pas manger tout ce ralouf. Enfin, Et je me suis dit, si je devais faire une histoire, de retranscrire sa façon de parler, c'est vraiment pas facile. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte de néo-accent chez les jeunes où ils font traîner les R comme ça. Je pense que c'est dû à au mixage des micros des téléphones qui fait ressortir les R. Je sais pas quand il dit c'est une dinguerie. Je sais pas, il y a le R devient un truc.
Quel lien avec le téléphone ?
Je sais pas, je me suis dit, parce que comme ils ont tout ça, je pense que c'est les vidéos qui captent les R. Par exemple, les ingénieurs, c'est Apple, se sont dit, on a des problèmes avec les R, on va pousser les R.
Ouais,
et comme ça, quand on fait une vidéo, on entend bien les R. Et les gens qui regardent les vidéos, en fait, ils se mettent à parler comme les vidéos et à voir la déformation de... Moi, je suis sûr que c'est ça. D'ailleurs, si un jour, il y a une analyse sociologique qui dit que c'est ça, c'est ici que vous l'aurez entendu la première fois. Et voilà, toujours est-il que si je devais aujourd'hui faire cet accent, je ferais, par exemple, c'est une dinguerie. Et ben, je mettrais deux R et des petites gouttes autour des R pour faire comme si on postillonnait en disant le R.
Oui, je comprends. Oui, parce que, alors, donc on s'en rend bien compte, et puis c'est ce que vous racontez dans ces deux livres. Vous êtes un enfant et un jeune homme assez observateur. Alors au départ, pour des raisons quand même d'évitement, hein, c'est-à-dire vous voulez pas vous faire casser la gueule, donc vous observez beaucoup l'ambiance autour de vous. Mais ce dont on se rend compte, effectivement, en vous lisant, c'est que vous êtes un grand observateur sonore.
Bah oui, parce que souvent, c'est le son qui attire l'attention. Enfin, c'est... Je sais pas... C'est vrai que visuellement, bon, déjà, je vois pas hyper bien. Mais quand même, je suis capable, disons, de... C'était aussi une déformation professionnelle de l'enfance qui m'a servi pour mon travail. Mais comme c'est ce que je raconte au début dans l'introduction de La vie secrète des jeunes, c'est que comme quand j'étais petit, j'habitais en Syrie, dans un village, puis ensuite, évidemment, à Rennes, ça m'a servi aussi. Mais comme il y avait des types qui, par exemple, parfois voulaient me péter la gueule ou me harceler, ou je sais pas, j'étais obligé de les repérer au loin et de voir si dans leur langage corporel ils pouvaient être dangereux ou pas. Oui, donc, ça, donc en fait, en grandissant, cette capacité à analyser de loin fait que j'ai eu un bon sens de l'observation et de me rendre compte que voilà, quand quelqu'un a une attitude spéciale, je sais qu'il faut que ou je m'y intéresse ou que je l'évite. Et donc j'ai mis à profit ce mini super pouvoir un peu naze pour faire La vie secrète des jeunes.
Avec quand même donc une acuité sonore importante. Mais vous racontez aussi dans ce livre toujours que vous vous êtes quand même fait pas mal en kikiné bien après dans le métro. On vous arrête, enfin on vous a longtemps arrêté ou interrogé ou pas?
Vous voulez dire
je sais pas, la police par exemple? Vous étiez dans les jeunes qu'on arrêtait pour leur demander s'ils allaient
jamais honnêtement jamais non jamais non.
Mais par contre vous êtes fait embêter par des types vous racontez dans le livre que en fait on vous arrête souvent pour vous poser des questions.
Oui non, c'est vrai que je me suis plus souvent fait embêter par des quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que je pense que comme j'avais passé des années penché sur ma table à dessin comme ça,
oui,
j'avais une sorte de tête en avant. Et donc, potentiellement, j'envoyais, moi, le message aux autres, je suis une victime, vous voyez. Donc, en fait, je pense que j'attirais les galères. Et en même temps, ça m'a donné une vision de la réalité qui est précieuse, parce qu'après, j'en ai fait des livres, et voilà, je regrette pas. Aujourd'hui, beaucoup moins. On m'emmerde vraiment beaucoup moins dans la rue. Mais il faut savoir que, bon, ça se voit peut-être pas encore, mais je fais de la muscu, ce qui fait que je me tiens quand même beaucoup plus droit. Et donc,
c'est ça.
Ouais. Et donc, j'ai plus cette posture de victime que je pouvais avoir
de tortue. Oui, c'est ça.
De tortue un peu.
Et Saint-Exupéry, qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture?
C'est vraiment la grande écart.
Eh oui, admiré.
On passe
de la muscu à Saint-Ex.
C'est une dinguerie.
Et c'est pas moi, hein, c'est vous.
La transition de malade.
Et oui, vous êtes hyper fort. C'est vous, puisque vous arrivez à faire les deux en même temps pour Noël.
Oui, c'est vrai.
Respect quand même, c'est vous.
Mais non, mais alors voilà, c'est intéressant ce que vous notez là aussi, c'est que je me suis dit, quand sortir La vie secrète des jeunes? Je voulais le ressortir, mais en même temps, je peux pas le sortir n'importe quand. Je me suis dit, je vais le sortir un peu en même temps que le Terre des Hommes, parce qu'il va être accompagné un petit peu par Terre des Hommes, où je me disais qu'il était plus grand public que La vie secrète des jeunes. Voilà, donc j'ai décidé un peu de sortir les deux à un mois d'intervalle. Et c'est vrai que voilà, moi, pour pas parler de Terre des Hommes, c'est un projet qui me fait rêver depuis l'adolescence de faire ces dessins autour de ce livre que j'adore.
Oui, dont vous dites que vous le relisez tous les ans.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais d'ailleurs, Saint-Exupéry, je le relis très très souvent.
Ouais. Il y a une photo de Saint-Exupéry sur votre bureau, ce que vous racontez dans le livre, d'ailleurs. Ouais, vous travaillez avec Saint-Exupéry. Alors, qu'est-ce que ça a impacté dans votre écriture, Saint-Exupéry ?
C'est ma Taylor Swift à moi, un peu. Je le regarde, c'est vrai, mais en fait, non seulement j'ai une photo de lui dans mon bureau, mais je collectionne aussi des choses, des petits autographes qu'on peut trouver. Quand on adore Saint-Exupéry, tous ceux qui adorent Saint-Exupéry ont un peu la même attitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de personnage mythique. Alors déjà, pour moi, à l'adolescence, je pense que dans cette salle, il y en a... Vous rappelez ? Moi, ma mamie, elle me donnait tous les mois, elle me donnait 50 francs d'argent de poche. Elle me tenait un billet de 50 francs sur lequel il y avait Saint-Exupéry. Il y avait sa tête sur le billet de 50. Donc, en fait, c'était un mythe français. Et c'est à peu près à l'époque où j'ai lu son livre qui m'avait... Parce que j'étais d'une famille où personne ne lisait trop. Enfin, il n'y avait pas du tout de rapport à la littérature. Et moi, j'avais un grand-père qui avait été enfant dans les années 30 et qui, un jour, avait croisé dans la rue Jean Mermoz, qui, à l'époque, était c'est un aviateur dont parle Saint-Exupéry dans son livre, et qui était une immense star à l'époque. Il était déjà extrêmement musclé, extrêmement beau. Il était très héroïque, etc. Et c'était quelqu'un de très gentil. Et mon grand-père m'avait toujours raconté qu'il lui avait donné une cigarette alors qu'il avait 15 ans, qu'après, il avait fumé 20 ans après la cigarette de Mermoz. Et donc, il m'a raconté toutes ses aventures de l'aéropostale, etc. Et je pense que ça avait mis quelque chose dans ma tête. Et quand je suis tombé sur Terre des Hommes dans une bibliothèque à Rennes, il y avait un bandeau et c'était marqué en dessous le grand chef-d'œuvre de Saint-Exupéry, l'épopée de l'aéropostale. Et donc, j'ai fait le lien avec mon grand-père et j'ai lu ce livre. Voilà. Et j'ai été transporté parce que c'était un moment de ma vie où, voilà, enfin, comme plein de gens, mais j'avais des problèmes familiaux, je rêvais de... Je commençais ma vie, donc je rêvais de réussir à devenir un auteur, de fuir ma condition m'accomplissant d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est vrai que tomber sur ce récit qui est extrêmement positif, qui raconte de ne jamais abandonner, qui raconte la fraternité, l'amitié, j'étais extrêmement avide de me dire que la vie allait m'offrir le type de relation humaine qui était décrit dans ce livre, le type d'attitude vis-à-vis de la vie et de la réalité, voilà, ne jamais abandonner. Même quand on rate, etc. Enfin, je trouvais ça très... Donc, c'est un livre que je relis régulièrement, comme les Tintins. Voilà.
Comme les Tintins.
Bah oui. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un pont un petit peu entre l'univers d'Hergé et l'univers de Saint-Ex, parce que je pense que Saint-Ex a beaucoup influencé Hergé. Dans Le Crabe aux Pinces d'Or, si vous l'avez lu, si vous vous souvenez, il y a toute une scène où Haddock et Tintin s'écrasent dans le désert, dans un avion. Ensuite, ils sont perdus, ils sont récupérés par des méharistes alors qu'ils sont sur le point de mourir. Et donc, je pense que comme Saint-Exupéry avait eu son accident dans le désert de Libye, ça avait fait les gros titres et je pense qu'Hergé s'en était inspiré. Donc voilà, ces deux univers que j'adore, j'ai essayé un petit peu de les mélanger dans ce livre.
Donc finalement, cette histoire de Saint-Exupéry, cette lecture-là, ce personnage-là, ça vous a surtout donné confiance pour avancer comme vous le vouliez, plus que impacter votre façon à vous de faire de la bande dessinée et des livres ?
Oui, oui, oui. Et il y a aussi, alors très tôt en fait, j'ai développé une passion pour Saint-Exupéry après ce livre, j'ai lu ses biographies, etc. Et très tôt, j'ai compris en fait que ce qui me plaisait aussi chez lui, c'était déjà le fait de faire quelque chose d'extrêmement accueillant pour les lectrices et les lecteurs. C'est-à-dire, il y avait plein d'anecdotes qui racontaient que quand il écrivait ses textes, il emmenait ses textes chez le coiffeur et il les lui lisait pour être sûr qu'ils comprennent bien. Et le coiffeur, déjà, lui disait « Oh, je n'ai pas tellement compris ce passage-là, vous devriez réécrire, c'est un petit peu sombre. » Et donc, il recommençait, etc. Et je trouvais que c'était une attitude hyper bien, l'envie d'être compris. Et il y avait aussi une chose qui me plaisait beaucoup chez lui, c'était la transgression. Parce qu'il venait d'un milieu socialement très élevé, qui n'était pas du tout le mien, et il était devenu pilote d'avion. Mais c'était une transgression par rapport à son milieu, parce qu'en fait, à l'époque, aviateur, c'était un métier hyper dangereux, pas du tout prestigieux pour les gens de la haute société. Et qu'une fois qu'il était devenu aviateur, il a aussi transgressé son milieu des aviateurs en disant « je vais écrire, je serai le premier aviateur qui écrit des romans ». C'était mal vu, il était mal vu dans le milieu littéraire, il était mal vu chez les aviateurs parce que il révélait certains de leurs secrets, etc. Et ensuite, la transgression suprême de Saint-Exupéry, je trouve, c'est le fait qu'il s'est dit, mais je vais moi-même illustrer mon livre, et je vais dessiner Le Petit Prince. Et alors que, honnêtement, j'ai entendu toutes mes études de dessinateur, tout le monde se moquait des dessins de Saint-Exupéry en disant qu'il dessine mal, par exemple. Moi, je trouve qu'il dessine hyper bien, mais c'est un dessin qui lui ressemble. Mais c'était pas évident, en fait, de se dire « je vais dessiner mon propre livre ». Et voilà, il se permettait des choses. Mmh. Et je trouvais ça génial dans le... C'est que d'ailleurs ce qu'il raconte dans Terre des Hommes, parce que je pense qu'il avait aussi, je dis aussi, mais il avait un ego très important et il s'est dit je vais raconter l'histoire de mes amis et la mienne, je vais créer mon propre mythe parce que si je ne le fais pas, qui donc le fera? Et je trouve que ça c'est très encourageant quand on est un jeune mégalomane de 16 ans, comme on pouvait l'être à cette époque-là.
Et vous, est-ce qu'il y a des périodes où vous avez vraiment douté?
Ah bah, douter, comment vous voulez dire de...
Bah, je ne sais pas, dites-moi.
Douter, mais ça douter de ne pas y arriver ou de...
Oui,
ne pas...
je ne sais pas, dites-moi. Est-ce qu'il y a des... Vous avez eu des périodes de doute
oui,
vraiment difficiles?
Oui, peut-être, oui, j'en ai eu, bien sûr, oui, bien évidemment, oui. Mais je m'étais fait un programme mental quand même... disons que la grande chance que j'ai eue dans l'existence, c'était un truc qui me faisait souffrir, mais qui était quand même une grande chance, c'est que je n'avais vraiment... Je n'avais aucun succès avec les filles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une petite amie très très tard. J'ai signé un contrat avec un éditeur avant d'avoir une petite amie pour la première fois. Donc la bande dessinée est mon premier amour. Mais c'est vrai, en fait, dire ça, ça peut paraître pour une blague, ouais. Mais en fait, ce qui fait que je n'avais rien d'autre à faire que de dessiner toute la journée. J'avais aucune dépense, j'avais aucun... Personne ne se plaignait de me dire tu t'occupes pas de moi ou je sais pas quoi, on fait pas des trucs, on part en vacances. Personne voulait partir en vacances avec moi, jamais. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait des moments où j'habitais dans un petit appartement à Paris et je dessinais tout le temps. Et à un moment, je me disais, putain, mais il fait hyper chaud et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'était parce qu'on était en été. Et comme je vivais dans une petite loge de concierge, j'avais pas capté, je me disais, mais ça, on est en juillet, mais en fait, attends, c'est le moment où tout le monde est en vacances. Voilà. Et je m'étais dit, tout ça pour dire que comme j'étais tellement obsédé dans mon petit univers, je m'étais dit, je vais proposer 500 projets à des éditeurs, à raison de, allez, je peux en faire 10 par mois, donc ça fait 50 mois, et ce sera pas possible d'avoir 500 réponses négatives. Il y en aura forcément à un moment un qui va dire, allez... Ok, pourquoi pas et tout. Si je m'étais vraiment dit ça, voilà, j'étais prêt à y passer le temps qu'il faudrait, mais jusqu'à voilà. Et en fait, finalement, ça a marché un peu plus rapidement qu'au bout de 500, mais peut-être au bout d'une quinzaine. Voilà,
il y a quelque chose de méthodique, c'est assez rigolo. Vous racontez hein, dans votre écriture que quand vous assistez à ces scènes, donc vues et entendues, qui sont celles de la vie secrète des jeunes, vous écoutez, vous êtes témoin, très bien. Après, vous laissez passer quelques jours. Et ensuite, vous voyez ce qu'il en reste. Et puis, bon, vous faites bien attention de changer le physique des personnages. Mais finalement, on a l'impression, enfin, vous nous donnez l'impression que ces scènes comme ça, elles arrivent, claquent. Puis vous nous dévoilez un petit peu quand même de votre savoir-faire avec cette méthode. Donc finalement, vous êtes quelqu'un de très organisé et très méthodique pour faire toutes ces planches.
Oui, je crois que je suis assez... disons que mon bureau est quand même en bazar, dans un bazar extrême. Mais je crois que je suis assez méthodique, oui. C'est vrai que j'aime bien les trucs qui succèdent et qui c'est vrai que les pages de la vie secrète des jeunes toutes les semaines pendant 8 ans comme ça, puis le cahier d'Esther après toutes les semaines pendant 8 ans aussi. Mais c'est pas vraiment intellectualisé, mais j'aime bien chercher et essayer de trouver dans le rythme quelque chose. C'est un peu comme le sport, je me dirais, c'est souvent ce que je me dis. Je me dis, si j'avais pas ce rythme hebdomadaire avec un magazine, peut-être que je dessinerais moins, ou peut-être que... Il faut que je dessine même quand j'en ai pas envie. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait partie de ma vie. C'est mon. Quand je dessine pas ou quand j'écris pas, je sais que j'ai le blues un peu. C'est comme si la réalité filait trop vite ou j'ai pas l'impression d'être vraiment en contact avec la réalité. Je sais pas.
Et cette réalité, dans votre livre, vous nous racontez qu'elle vous touche notamment plusieurs fois hein, quand vous êtes témoin des fragilités des adultes. Ce qui vous touche, c'est les liens parents-enfants. Alors, vous faites aussi un petit commentaire parce que ces planches, je voulais commenter hein, par-ci par-là en bas de page. Et vous dites, bon, c'est peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, je suis en psychanalyse, mais vous racontez que ça, c'est un élément qui vous bouleverse, en tout cas qui vous passionne, qui vous intéresse. La façon dont les adultes sont au fond encore des enfants.
Oui, oui, c'est vrai. C'est un lieu commun de la vie, mais tout le monde a été un enfant. Il y en a qui oublient, qui prétendent avoir oublié ces années-là, mais mais c'est rigolo de voir tout ce qu'on perd, tout ce qu'on ou tout ce qu'on peut garder aussi de l'enfance et qu'on et qui nous enrichit tout le temps. Enfin, c'est vrai que c'est pas pour faire un lien avec Saint-Exupéry, mais c'est vraiment oui. une de mes phrases préférées de Saint-Exupéry. C'est quand il dit je suis de mon pays, je suis de mon enfance comme on est d'un pays. Mais c'est un vrai, c'est une vraie phrase, c'est-à-dire toujours revenir aux premières sensations, aux premiers sentiments, aux premières émotions, de se dire. La première fois qu'on a vu une page de BD, le premier dessin, le premier texte, tout ce qu'on a ressenti comme émotion intense, parce qu'on n'avait jamais vécu ça avant, c'est, ça, peut, ça nous suit toute la vie. Enfin.
Vous vous souvenez du jour, la première fois que vous avez vu une BD ?
Oui, c'était la couverture du Secret de la licorne d'Hergé.
Et
exactement. Bah c'était, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait j'avais jamais vu de requin, j'avais jamais vu d'algues, j'avais jamais vu d'île tropicale, j'avais jamais vu de montagne, j'ai vu tout ça dans ce wow. livre pour la première fois. Je savais pas lire et je pense que ma mère m'avait offert ce livre parce que Hergé était mort peu de temps auparavant et donc enfin je rigole, c'est pas drôle, mais en fait je pense que les éditions Casterman avaient dû refaire une mise en avant dans les supermarchés, vous savez, genre ah, il est mort, vite, balance-moi 3 millions d'exemplaires de Tintin dans les euromarchés. Parce qu'en fait, sur mon Tintin, j'ai toujours l'autocollant Euromarché promotion spéciale. C'était avant la loi Lang, je crois, un truc comme ça. Donc, il coûtait 5 francs. Je sais plus. Et donc, ma mère me l'avait acheté comme ça. Et
vous l'avez encore ?
Je l'ai encore, oui, il est tout destroy. J'en ai mis une photo d'ailleurs sur mon Instagram récemment. Et je me rappelle que je lisais ce livre sans savoir de quoi parlaient les bulles. J'étais ébloui par la beauté des dessins, de ce que ça représentait, etc. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, mais qu'est-ce que c'est que ce mot tout en haut qui est écrit Hergé Parce que moi, je pensais que c'est qu'un livre était comme un phénomène naturel, c'est-à-dire que c'était comme le ciel ou les montagnes, et enfin le ciel ou la terre. Et elle m'a dit, mais c'est le nom de la personne qui a fait le livre. Qui dessine.
Et là,
donc là, voilà, ça a été un choc. J'avoue, je me suis dit, je peux créer des univers. Wow. Créer des, voilà.
Et là, c'était parti quand même.
Ben voilà, oui. Donc vraiment, je m'en suis jamais remis.
Oui.
Donc j'écrivais mon nom en haut des dessins, comme si j'étais un auteur. Enfin, j'ai fait ça très très tôt. Ouais.
Y a autre chose qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont vous finalement vous sélectionnez des personnages forts pour vos planches, vos bandes dessinées. Et vos scénettes, et vous dites que vous êtes fasciné par... Alors, il y a plusieurs genres, mais quand même, dans ces personnages forts, il y a ceux qui sont très engagés. Ça vous passionne. Ceux qui sont très engagés et dont vous dites que souvent, c'est des gens qui sont un peu représentatifs d'une forme de colère.
Vous voulez dire engagés politiquement ?
Bah, par
exemple. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, disons que moi, le rapport que j'ai vis-à-vis de l'engagement politique, par exemple, disons que moi, je vois un peu le monde comme une classe de terminale. Je pense la société française, c'est une classe de terminale. C'est-à-dire, moi, dans ma classe, j'avais très clairement un Louis Sarkozy. Mais j'avais aussi très clairement une Salomé Sacqué, par exemple.
Oui, bien
j'avais
sûr.
Les deux. Et donc, Louis Sarkozy faisait du sport, il faisait des trucs. Salomé Sacqué, en philo, on était en philo, elle était toujours là. Ouais, non, mais elle essayait... Enfin, et donc, moi, je vois la société à travers ce prisme-là.
Vous êtes toujours en classe de terminale.
Bon, je suis toujours en classe de terminale. Il y avait le BG. Moi, j'étais le dessinateur neuneux du fond de la classe. Qui était un peu bizarre, inquiétant, etc. Et donc, ça ressemble à la société française un peu. Et donc, c'est vrai que moi, dans ma classe, il y avait des gens très engagés qui bloquaient le lycée ou des trucs comme ça et qui avaient des visions qui me parlaient du monde arabe, etc., sans jamais s'être intéressé, par exemple, au fait que moi, j'avais vécu en Syrie des années, par exemple, parce que j'avais pas forcément une tête marquée orientale, par exemple. Donc, j'étais pas. Et donc ça m'a donné une vision de, comment dire, assez peut-être avec du recul. J'observais les gens, leur manière de s'investir dans des causes, et que c'était évidemment aussi pour avoir un prestige pour les garçons, auprès des filles de la classe, pour les filles, Donc j'ai du mal à prendre ça très au sérieux ou à y croire à 150%. En plus, en devenant un auteur... entre guillemets, à succès, j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, mais de rencontrer pas mal de personnalités politiques, en vrai. Et je trouve que c'est quand même tous des psychopathes, personnellement. Ou ils ont des choses psychopathologiques. Et qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est pareil. Hein.
Oui.
Tous un peu, je sais pas, il y a un truc bizarre. Parce que si vous y réfléchissez, si on se dit... je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font de la politique, peut-être pas, mais... Je ne vous le souhaite pas, mais on se dit quand même, leur boulot, c'est de faire des réunions toute la journée, de parler devant les médias et tout. Il faut être un peu givré pour faire un truc comme ça. Et des fois, ils changent de bord politique, ils font des trucs. Et vraiment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait de la politique en me disant « j'aimerais bien être son pote » ou « je sais pas » ou « qui m'invite à bouffer » ou qu'on... C'est hyper inquiétant, voilà. Et donc, pour le coup, je trouve que ça correspondait à l'image que j'en avais déjà en classe de terminale quand j'étais avec Louis Sarkozy et Salomé Saki. Je voyais exactement, je pensais qu'il deviendrait ça, et avec le recul, c'est ce que mon expérience m'a montré.
Vous racontez aussi le festival de Cannes, hein, dans ces scénettes, à propos comme ça d'observation, dont vous dites, bah, finalement, je me suis rendu compte que dans le milieu du cinéma, il y a plus de pognon, mais il y a aussi plus de cruauté.
Oh là là, vous faites des grands écarts extrêmes,
ouais,
pour passer d'un sujet à...
Oui,
non, disons que... C'est vrai que la vie secrète des jeunes était une petite porte dans Charlie Hebdo, une petite porte où toutes les semaines, je pouvais raconter quelque chose que j'avais vu. Alors, je racontais des choses que je voyais dans le métro, etc. Mais c'est aussi un peu une bande dessinée autobiographique. C'est pour cette raison que dans cette édition-là, j'ai inclus une chronologie où je raconte un petit peu ce qui se passait en France à l'époque, etc. Il se trouve que pendant le temps où j'ai fait la vie secrète des jeunes, j'ai eu, entre guillemets, de plus en plus de succès en tant qu'auteur.
Oui.
Quand j'ai commencé, j'avais vraiment publié très peu de bandes dessinées. Puis, au bout de 3-4 ans, j'en avais fait plus, etc. Il y a un moment au milieu de La vie secrète des jeunes, à peu près, où j'ai la chance de pouvoir tourner mon premier film.
Les Beaux Gosses.
Qui s'appelle Les Beaux Gosses. Et parce que la productrice, Dominique Toussaint, de ce film, aimait beaucoup mes BD et m'a proposé de faire un film. J'ai eu cette chance incroyable. Et il se trouve que ce film avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et donc, je m'étais retrouvé à Cannes, en effet. Donc, j'en avais profité pour observer ce qui se passait à Cannes.
Mais c'est en même temps toute la saveur de votre écriture. C'est que vous passez vous-même du métro au McDo. Tout d'un coup, on est à Rennes parce que vous allez voir votre mère et puis vous racontez des scénettes qui se passent au pied des HLM. En même temps, on est en Corse parce que vous êtes en vacances.
Bah, j'avais gagné un peu d'argent, j'étais en Corse.
Voilà. En même temps, on est à Cannes puisque tout d'un coup, voilà, c'est sélectionné. Et vous êtes aussi à un moment donné au ministère de la Culture. Parce qu'il est question de bande dessinée. Donc, effectivement, vous nous amenez à faire des grands écarts pour nous montrer quoi ? Pour nous montrer que, de toute façon, le réel est intéressant partout.
Bah oui, 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 c'est vrai. Puis parfois, je n'ai pas raconté tout non plus. Enfin, il y avait des... Par exemple, je pense que c'est rigolo, parce qu'un de mes souvenirs du Festival de Cannes, en fait, il y a un moment, donc ceux qui étaient à la quinzaine des réalisateurs, donc c'était une sélection parallèle, donc quand vous montez les marches... Il y a un moment, je sais pas, c'est hyper codifié. Enfin, je sais même pas pourquoi c'est comme ça, mais ceux qui sont à la quinzaine des réalisateurs, il y a un moment où ils montent les marches tous ensemble. Ils doivent tous le faire ensemble, comme s'ils étaient un peuple ou je sais pas quoi. Et donc, faut être là, faut être en costard, machin et tout. Et je me rappelle, j'attendais sur les marches avec Xavier Dolan. Et à l'époque, il n'était pas du tout connu. Il avait fait son premier film, en même temps, enfin, qui était beaucoup moins connu. Et il avait, parce que quand vous êtes à Cannes, il faut le smoking est obligatoire. Vous pouvez pas monter les marches pour un garçon si vous n'êtes pas en smoking. Et si vous êtes une femme, vous êtes obligé d'avoir une robe. Il y avait un dress code extrêmement. Et Xavier Dolan, je me rappelle, il avait disrupté un petit peu le truc en mettant un smoking lacéré. Il avait son genou qui était ouvert comme ça, le smoking était lacéré, mais c'était quand même un smoking. Mais il était en galère dans son smoking, à côté de moi, il n'arrêtait pas de se plaindre qu'on ne montait pas les marches, parce qu'il fallait attendre, parce que je sais pas, il y avait une vedette américaine qui montait, donc on était comme ça, on attendait. Et il avait piqué une mini crise de nerfs. Il était stop, c'était un monde là, qu'est-ce qu'on voit monter là. Et je me rappelle, je suis nul en accent canadien, voilà, excusez-moi. Et je me suis dit, est-ce que je raconte cette scène? Mais j'arrivais pas à retranscrire l'accent canadien de Xavier Dolan à cette époque-là. Mais j'aurais pu faire une très bonne histoire avec lui. Après, il est devenu une vedette mondiale et tout. Mais ça me voilà. Et c'est vrai que j'ai pas toujours tout raconté de ce que j'ai vu ou vécu. Mais j'essayais de choisir des choses que je pouvais retranscrire de la manière la plus fidèle possible et qui puisse avoir une portée, disons, symbolique, quoi.
Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous ne pourriez plus écrire? À l'époque, on fume dans les wagons. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. À l'époque... Alors, qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans ces scènes de vie attrapées au vol?
Oh, c'est très compliqué, je sais pas. J'ai l'impression que je pourrais redessiner la vie secrète des jeunes très facilement tout le temps. Parce que je vois tout le temps des gens parler, raconter des trucs pas possibles. Enfin, je sais pas. C'est en plus, d'autant que maintenant, je sais que donc j'ai beaucoup moins pris les transports en commun parce que j'avais arrêté pour faire du vélo. En fait, enfin, je m'étais dit j'en avais marre de prendre le métro, je m'étais acheté un vélo. Et donc, mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens, je pense que vous l'avez remarqué, mais ils ont tous leur téléphone et il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos ou se parlent en haut-parleur. Comme s'ils s'en fichaient. Par exemple, oh, une très bonne anecdote ce matin. J'étais à Toulouse et j'étais dans un super hôtel et tout. Non, je vais la raconter quand même, c'est quelqu'un. Non, ça n'a aucun intérêt, mais vous allez comprendre. Et j'étais au petit déj comme ça et il y avait un groupe de 3 personnes. C'est un hôtel un peu luxe, parce que je suis auteur à succès. C'est un hôtel un peu luxe. Et ils regardaient une vidéo et à plein volume. Oui, et c'était quelqu'un qui parlait. Genre, c'était une nana, je sais pas, elle disait un truc du genre « Ouais, alors moi, bah, tu comprends, je suis ravie, alors il m'a dit ça. » Et puis à ce moment-là, quand il m'a dit ça, bah, je me suis dit « Je vais appeler Pierrick et puis je vais voir avec lui. » Mais c'était comme ça, enfin, je sais pas, avec un, vous voyez, le micro hyper crispant. Et j'étais comme ça, et je me dis « Tain, mais c'est pas possible, quand même. Les gens, ils ont vraiment rien à secouer des autres. » Je commençais à être extrêmement... Alors, moi, je mets une vidéo moi-même avec le son. Et je m'auto-gênais parce que la vidéo, c'était une prof de sport qui disait tu veux développer tes pectoraux, ne fais pas ces 3 erreurs et tout. Et je me suis dit, je vais les emmerder un peu. Puis au bout d'un moment, je m'emmerdais moi-même parce que vous avez aussi leur vidéo et tout. Et à un moment, je me dis, attends, c'est bon, putain, t'as l'âge, tu peux aller leur dire de fermer leur grande gueule et tout. Et je me suis dit, je vais y aller. Je me laisse comme ça. Et à ce moment-là, ils décident de se lever et de partir. Et je me dis, oh, cool, parce que j'avais peur en même temps que ça se transforme en bagarre ou un truc comme ça. Enfin, voilà, et ça, par exemple, je l'aurais raconté dans La vie secrète des jeunes, je pense. Enfin, je l'aurais fait.
Oui. Et puis, vous dites aussi, c'est marrant, ce décalage que vous prenez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous démarrez par année avec un petit topo. Cette année-là, il se passe ça, culturellement, politiquement. Et puis, vous dites dans votre livre, bon, vous notez des tas de scènes quotidiennes en vous interrogeant sur ce qui fera écho dans 20 ans. Puisque là, vous racontez des choses, finalement, mais vous nous invitez à replonger il y a 20 ans. Et notamment sur des scènes assez sexistes, dont vous dites, bah, c'est fou aujourd'hui, finalement, ces scènes, elles sont encore parfaitement d'actualité. Vous dites à un moment donné, je me demande ce qui sera encore d'actualité dans 20 ans. On peut imaginer que le téléphone portable aura encore évolué d'ici là. Est-ce que vous avez quand même trouvé une réponse à ça ou pas?
Non, mais je pense que voilà, les sociétés, elles prennent conscience de choses avec un peu de retard, certainement, enfin, où il y a une latence, ou un... Il y a des choses qu'on vit dans la société aujourd'hui dont on prendra conscience peut-être que dans 20 ans, en se disant mais comment c'était possible. D'ailleurs, c'est déjà un petit peu en train d'arriver. Par exemple, il y a plusieurs pays qui interdisent les réseaux sociaux aux enfants mineurs, par exemple, pour essayer de garder leur concentration, etc. Et peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a toute une génération de jeunes qui ont subi une sorte de crise sanitaire, avec le portable, que ça a nuit à leur apprentissage, nuit à leur... Enfin, c'est pas pour revenir à cet hôtel, mais dans cet hôtel, tous les serveurs, c'était des jeunes de la génération Z. Et alors, en fait, ils regardaient tous leur portable tout en étant serveur. Et ils parlaient hyper fort les uns avec les autres, etc. Je sais pas, c'était hyper bizarre. Je me disais, mais c'est marrant parce que est-ce qu'ils ont des réunions avec des managers qui leur disent alors, il faut pas parler trop fort parce que ils se parlaient d'un bout à l'autre comme ça avec leur téléphone. Je sais pas, on voit que personne n'a surveillé leur évolution dans leur jeunesse avec leur téléphone. Personne leur a dit, tu as interdiction de portable, je sais pas quoi. Et ça fait des personnalités un peu bizarres. Et peut-être que dans 20 ans, on va se rendre compte. Non, mais c'est vrai, Voilà, donc je pense qu'en effet, on se rend compte de choses qui impactent la société avec le recul.
Avec ce décalage.
Et donc, j'ai essayé de raconter ça un petit peu dans cette BD à rebours, quoi.
Et c'est très réussi. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.